l'actualité des idées aujourd'hui, comment réinventer le masculin après MeToo? On en parle avec notre invité, l'historien et essayiste Yvan Jablonka, auteur de Laetitia ou La fin des hommes, il y a 3 ans, du corps des autres, ou encore de L'histoire est une littérature contemporaine, il y a 5 ans. Il publie aujourd'hui Des hommes justes, au seuil, une réflexion autour des nouvelles masculinités, une invitation lancée aux hommes à questionner le fonctionnement patriarcal de la société et à se saisir du combat pour l'égalité des sexes par celui qui se dit contre le pouvoir et la domination d'un genre sur l'autre. Un traité politique, écrit-il, pour des masculinités compatibles avec les droits des femmes. Bonjour à vous Yvan Jablonka.
Bonjour.
Aujourd'hui s'ouvre justement à Matignon un Grenelle des violences conjugales. Derrière les coups, quelle logique ancestrale voyez-vous apparaître ?
D'abord, il me paraît important de saluer l'initiative et de rendre hommage aux travailleurs sociaux, aux associations, aux bénévoles qui luttent pour les droits des femmes. Il y a bien sûr des mesures d'urgence à mettre en œuvre, par exemple mettre les femmes en sécurité ou évincer les auteurs de violences. Mais vous avez raison, il y a une réflexion de fond à mener et il me semble qu'il faut tout simplement repenser le masculin ou au minimum s'interroger sur ce qu'on met dans nos masculinités. Je crois qu'à cette occasion du Grenelle, il faut parler publiquement de la domination masculine. C'est un lien direct avec les violences de genre. Il faut parler aussi du machisme et de ce que j'appelle moi-même la masculinité criminelle. Ça fait intégralement partie du problème.
Voilà, parce que vous distinguez 3 abus de genre, la misogynie, mais aussi cette masculinité criminelle à l'origine du féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme en tant que femme. L'importance de ce mot, de mettre des mots aussi sur des actes, d'autres mots. Écoutez la journaliste Titiou Lecoq.
Le féminicide, ça a l'intérêt de sortir de la case fait divers. C'est pas Jonathan qui a tué Alexia. On décide de le traiter, même si en vrai Jonathan a tué Alexia, mais on décide de le traiter comme un fait de société. Ça, c'est pas à la justice de trancher un fait de société. C'est, en l'occurrence, je pense, aux journalistes de se dire cette affaire ressemble à beaucoup d'autres affaires, traitons-les de manière un peu globale pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Ça n'est pas normal que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Et c'est ça le fond de ces histoires-là, en fait.
Toute femme qui est tuée par un homme n'est pas victime d'un féminicide, c'est un peu plus compliqué.
Le féminicide, voilà, c'est qu'est-ce qui, dans les relations de genre, fait qu'un homme prend le pouvoir sur une femme au point de décider si elle peut vivre ou si elle doit mourir.
Voilà, vous distinguez donc masculinité criminelle avec le féminicide, masculinité de privilège et masculinité toxique. Dites-nous juste la différence pour vous.
La masculinité toxique, ça va être par exemple d'adhérer à un certain nombre de stéréotypes. La femme prostituée ou alors la tueuse, entre guillemets, en entreprise parce qu'elle a de l'ambition, etc. La masculinité criminelle, ça renvoie à des crimes. Et on parle ici de viol ou le fait de tuer sa conjointe ou son ex-conjointe. Et vous avez raison de dire que les mots sont importants. Naguère, on parlait de drame passionnel. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on va dire c'est un drame intrafamilial pour dire tout simplement que un conjoint a étranglé, tué devant les enfants parfois sa conjointe parce qu'elle voulait partir, parce que que sais-je encore. Eh bien, les mots sont importants. Il y a une chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle Requiem pour un fou, qui date du milieu des années 70. Et ce fou, c'est simplement un homme qui a tué sa femme. Et vous voyez. Voyez bien que on a changé d'air, on a changé de grille de compréhension. Qui parlerait aujourd'hui de ce requiem pour un fou pour parler d'un homme qui a simplement massacré sa conjointe? Et moi, à titre personnel et aussi en tant qu'historien, je suis favorable à l'emploi du terme féminicide.
Faire passer aussi un meurtre de femme de la rubrique fait divers à la rubrique fait de société, voire fait historique, c'est aussi ce que vous avez fait, la démarche que vous avez adoptée dans votre précédent ouvrage, essai, sorte d'enquête historique autour de la figure de Laetitia. Alors Laetitia, pour mémoire, c'était cette jeune femme, Laetitia Perret, qui a été enlevée, tuée par son petit ami, en tout cas le garçon qu'elle fréquentait à l'époque, Tony Meillon. Et ce livre peut être aussi compris, perçu un peu comme le prolongement, celui que vous publiez aujourd'hui, des hommes justes, du précédent sur cette affaire de Pornic, Laetitia ou la fin des hommes. Est-ce que là, il s'agissait pour vous d'un féminicide ?
Oui, d'ailleurs j'emploie le terme dans le livre. On était un an avant MeToo et Laetitia a disparu dans un féminicide. Et le fait même que par la suite le meurtrier ait voulu abîmer, détruire, démembrer son corps, ça fait partie intégrante de cette logique de destruction d'une femme en tant qu'elle est une femme et aussi en tant qu'elle a refusé je ne sais quelle avance de cet homme qui n'était pas son petit copain mais plutôt un homme de rencontre. Et donc dans ce livre, je m'étais interrogé sur les violences subies par Laetitia, mais aussi par sa sœur, Jessica, qui avait été agressée par leur père d'accueil. Et puis, je m'étais intéressé aussi aux violences subies par leur mère, à l'époque où les jumelles étaient fillettes. Bref, c'était pas simplement Laetitia et son malheur, c'était aussi une réflexion sur les violences envers les femmes et, de manière corollaire, sur le masculin. Voilà, donc c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'était « La fin des hommes », Laetitia ou « La fin des hommes ».
Alors comment il faut l'entendre ce sous-titre ?
Eh bien, il faut l'entendre comme une réflexion sur les masculinités et plus exactement sur une autopsie des masculinités criminelles. Il y a plusieurs hommes qui ont peu à peu détruit Laetitia. L'homme qui finalement a été condamné pour enlèvement suivi de mort. Mais bien avant, elle a été fragilisée, abîmée, elle a grandi dans la violence, le mensonge, le mépris. Et il y a eu tout un processus de destruction qui a fini par faire disparaître en moins de 20 ans une jeune femme qui ne demandait qu'à vivre. Alors ce sous-titre « La fin des hommes », c'est la fin morale de cette masculinité criminelle. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, j'ai éprouvé le besoin de publier un autre livre qui s'appelle « Des hommes justes ». Et les deux titres se font écho, bien sûr. Une fois qu'on a diagnostiqué la fin des hommes, eh bien, il faut les faire renaître sous les traits d'hommes justes. Et donc, ce livre est peut-être plus optimiste que Laetitia parce que je crois qu'on peut réinventer le masculin. Et je le dis avec la gravité de l'historien qui a passé plusieurs années autour de la tombe de Laetitia.
Masculinité criminelle, masculinité positive, comment repenser donc ce genre aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé depuis quelques années, tout ce qu'on entend. Ce livre, il invite aussi à révolutionner le masculin dans la vague, dans le sillon de MeToo qui a ouvert une vaste réflexion et un débat sur les violences sexuelles. Juste un dernier mot sur cette affaire Laetitia et sur les féminicides aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est qu'on peut lutter contre ces violences en protégeant mieux les victimes, mais on peut aussi lutter en amont pour que la société, en somme, ne fabrique plus d'agresseurs ou en tout cas fasse réfléchir aux logiques qui sont derrière ces actes.
Bien sûr, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup d'associations et de femmes qui le disent bien avant moi et je ne voudrais pas qu'on m'entende parce que je suis un homme. Bien sûr, je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que la réflexion de fond doit peut-être l'emporter. Voilà, repenser le masculin, ça veut dire aussi réfléchir à l'éducation qu'on donne aux garçons. Est-ce que les garçons doivent être traités comme des rois ou alors comme des gens qui sont intrinsèquement supérieurs aux filles et aux femmes? Est-ce que la femme est propriété de l'homme? Est-ce que quand une femme se fait taper, c'est sa faute? Bien, vous voyez que toutes ces questions que je dis par provocation, tant elles sont obscènes au fond, ces questions en fait renvoient à l'éducation qui fait parfois défaut dans les familles ou à l'école. Donc oui, je pense qu'on doit réfléchir sur ce qu'on met dans nos masculinités. Et c'est tout le sens de ce livre. De quelle masculinité voulons-nous ?
Sans déresponsabiliser les hommes, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a aussi une forme d'aliénation masculine, que cette domination, elle se transmet de génération en génération, que les hommes l'ont aussi reçue d'une certaine manière en héritage. Et donc la première chose à faire serait peut-être d'interroger l'éducation que nous avons tous reçus.
Vous avez raison, mais enfin faire suivre une question par une autre, c'est un peu glissant parce que l'auteur de violences criminelles, c'est quand même sa faute et rien ne l'obligeait à frapper, tuer sa conjointe ou une autre femme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forme d'aliénation masculine, ou plutôt on pourrait parler de prison du genre, qui fait croire aux hommes que le masculin est synonyme de pouvoir, d'agressivité, d'autorité, bref, une prépondérance de genre qui me paraît complètement périmé et aussi néfaste.
Harvey Weinstein, dont le procès a été repoussé à l'an prochain, Jeffrey Epstein, Comment un système, pour vous, Yvan Jablocka, a-t-il pu être complice de ces situations, de situations à telle échelle ?
C'est difficile à dire parce que ça fait partie d'enquêtes judiciaires qui sont en cours. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il y a des formes de connivence, de protection, des difficultés de certains hommes à dénoncer les agissements d'autres hommes. Peut-être qu'ils ont peur d'être en quelque sorte des traîtres à leur sexe ou à leur genre ou à que sais-je encore. Et c'est quelque chose qui est très dommage, parce que je crois qu'il est important pour chaque homme de prendre position. Alors prendre position en faveur des droits des femmes, bien sûr, mais aussi prendre position au sein des guerres du masculin. Les guerres du masculin opposent des masculinités de domination et des masculinités nouvelles, ainsi que des masculinités dissidentes. Par exemple, les masculinités dissidentes, ça va être un homosexuel, ou ça va être un noir aux États-Unis, ou encore le bouffon en classe. Le bouffon, c'est celui qui préfère lire plutôt que jouer au foot. Toutes ces masculinités dissidentes s'opposent à des masculinités de domination, et vous voyez bien qu'il y a des guerres du masculin dans lesquelles, je crois, il faut prendre parti.
Mais elles se font, pour vous, toujours à la marge ?
Non. Je pense que dans cette montée des doutes masculins que vous évoquez, il y a une réflexion de chaque homme sur ce qu'il met dans son masculin. Je pense que un certain nombre d'événements, et MeToo en particulier, ont fait réfléchir les hommes dans leur fort intérieur sur ce qu'ils mettaient dans leur masculinité. Puis, par exemple, est-ce qu'ils sont prisonniers ou non de leur genre, d'une définition étroite du masculin. Mais vous voyez bien que, dans le meilleur des cas, c'est une réflexion privée. Ça va être une discussion avec sa femme, avec une copine, parfois même entre copains, dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est une appréhension privée, psychologique du problème. Et mon livre vise à placer des choses qui paraissent privées au grand jour. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que mon livre fasse débat et lance cette espèce d'introspection collective qui consiste à se demander qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce qu'on veut pour nos garçons, pour nous-mêmes, pour nos conjoints, pour nos pères, pour nos fils, etc. Ou pour le dire autrement, de manière un petit peu plus familière, qu'est-ce qu'un mec bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un mec bien ? Pas simplement après MeToo, mais après d'autres événements. Voilà, qu'est-ce qu'un mec bien ? Est-ce que quand on voit une femme se faire emmerder dans le métro, est-ce qu'il faut passer son chemin ? Est-ce qu'il faut intervenir ? Est-ce que quand un collègue interrompt une femme, comme il est de coutume dans une réunion, faut le rappeler à l'ordre ou faut faire comme si on n'avait pas entendu ? Bref, qu'est-ce qu'un bon conjoint ? Qu'est-ce qu'un bon père ? Qu'est-ce qu'un bon manager ? Qu'est-ce qu'un bon urbaniste ? Qu'est-ce qu'un bon médecin ? Qu'est-ce qu'un bon chercheur ? Je le dis pour moi. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut poser publiquement, même si elles sont parfois douloureuses, parce que on s'aperçoit rapidement que les privilèges de genre sont endémiques et qu'en conséquence, l'injustice est dans nos couples, l'injustice est dans nos familles, l'injustice est dans nos bureaux, dans nos rues, dans notre cité. Et pour toutes ces raisons, c'est parfois un peu douloureux. Cela a été sans doute pour moi en écrivant ce livre. Et en tout cas, je comprends que ça mette mal à l'aise, mais c'est de salubrité publique que de poser la question.
C'est bien un problème de genre qu'on a aujourd'hui, d'où ce questionnement aussi que vous menez de manière historique sur le patriarcat tel qu'il s'est fondé. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à dire de quelle nature est cette construction ? Est-ce qu'elle est politique ? Est-ce qu'elle est sociale ? Est-ce qu'elle est culturelle ? Est-ce qu'elle est économique ?
C'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de remonter très loin. La question que je me suis posée, c'est à partir de quand, historiquement, on peut dire que les sociétés patriarcales sont enracinées. Voilà. À partir de quand on peut prouver ce que l'on vit au quotidien, le fait qu'il y a une domination masculine. Donc oui, je suis remonté au paléolithique supérieur, alors ça veut dire moins 20 000, moins 30 000, à partir du moment où on peut essayer de raisonner pour des sociétés qui nous ont laissé très peu de sources. Et donc j'ai essayé de poser cette question. Alors, une des choses que je dirais, après d'autres, c'est que vers le 4e millénaire avant notre ère, donc en gros il y a à peu près 6000 ans, à la fin du néolithique, on peut dire que le patriarcat ou les sociétés de nature patriarcale sont définitivement et jusqu'à aujourd'hui, enraciné. On le voit par exemple dans l'apparition de l'écriture à la fin du quatrième millénaire, qui l'écriture est tout de suite fait tout de suite prévaloir le masculin. De même, l'État est immédiatement patriarcal. On le voit par la manière dont les hommes monopolisent les postes de pouvoir. Et puis viendront ensuite les monothéismes et les spiritualités, où là, c'est le patriarcat le plus triomphant.
Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui, l'État patriarcal? Est-ce que vous parleriez d'un sexisme ou d'une misogynie d'État, comme certains parlent, d'un racisme d'État institutionnalisé, impulsé par le haut, et ce, malgré cet idéal d'égalité qui est inscrit dans les textes et qui vaut aussi pour l'égalité entre les sexes?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de patriarcat d'État, ce qui sous-tendrait que l'État est officiellement en faveur de l'inégalité. Non, je pense pas. On pourrait même faire le pari inverse, qu'il y a un féminisme d'État, alors qu'il est plus ou moins efficace. Enfin, on a des personnalités comme Marlène Schiappa ou d'autres initiatives, ce Grenelle dont on parlait, et bien sûr, il faut s'en féliciter. Maintenant, on est dans une société de nature patriarcale, ça j'en suis convaincu. On peut regarder comment fonctionnent nos familles. Bon, qui majoritairement se charge des tâches domestiques, de la charge mentale, et puis on peut aussi introduire une notion sociologique qui est presque encore plus douloureuse, qui est celle d'hypogamie. L'hypogamie, c'est le fait pour un homme de se marier, si je puis dire, en dessous de sa de son statut socio-professionnel. Ça va être un cadre qui se marie avec une enseignante à mi-temps. Voilà, qui va s'occuper des enfants? La réponse est donnée. Donc ces situations comme ça de déséquilibre du couple permettent de faire prévaloir des inégalités sociales au sein même de la famille, qui devrait être après tout un espace de respect mutuel. On le voit aussi dans l'économie des corps. Il suffit de regarder, je sais pas moi, une pub ou un film hollywoodien pour voir que la femme est à la disposition de l'homme, son destin c'est de plaire à l'homme. Dans un film, souvent la femme c'est un peu la récompense, hein, quand le héros gagne à la fin, en plus il a la belle femme en plus. Mais les zones de patriarcat les plus éhontées, je dirais, c'est à mon sens le monde de l'entreprise et le monde politique. Le monde de l'entreprise, on le voit, où c'est les masculinités de domination qui l'emportent. Voilà, agressivité, règne de l'argent, de la compétition. Et puis le monde politique offre un spectacle lamentable. Il y a très peu de femmes politiques, et quand elles prennent la parole, on les siffle, on les tourne en dérision. Voilà, ça donne l'image d'une classe politique complètement déconnectée des réalités. C'est-à-dire que ça donne l'image d'hommes politiques qui ne sont pas modernes, mais qui sont au contraire terriblement ringards, même s'ils sont jeunes.
Alors vous actez dans cet essai, Yvan Jablanka, la permanence du patriarcat, mais vous montrez aussi que le masculin aujourd'hui est inquiet, qu'il y a une crise de la masculinité, que c'est peut-être le paradoxe actuel. Comment mettre en mouvement le masculin? Pour ça, il faut peut-être se demander quels sont les principaux stéréotypes qui restent attachés au masculin, pour pouvoir aussi les repenser, les retravailler. Est-ce que ces stéréotypes, tels que vous les avez identifiés, sont eux aussi en crise?
Je pense qu'il y a une forme de, non pas de crise, mais de montée des doutes masculins. Et contrairement aux masculinistes, je dirais que c'est une bonne chose. C'est bien que les hommes se remettent en cause. Ils l'ont peu fait, historiquement. Donc je crois que c'est bien que le masculin soit non seulement interrogé, mais remis en cause. Il y a plusieurs explications. La désindustrialisation, la fin du travail physique, le déclin de certaines valeurs viriles, le fait que de plus en plus ce sont les femmes qui paraissent mieux adaptées à l'économie du savoir et au métier du tertiaire. Et puis c'est vrai que MeToo a joué un rôle important dans le domaine de la séduction. Alors c'est un domaine vraiment restreint, mais enfin après tout, on peut aussi en parler, parce que dans ce domaine qui est extrêmement intime, la séduction, la drague, le sexe, l'amour, un domaine à la fois très intime et puis aussi qui fait partie du plaisir de la vie humaine, eh bien il y a comme un malaise. Et MeToo a posé des questions à chaque homme, où se situe la ligne, la frontière entre la séduction et le harcèlement. Alors les juristes ont déjà répondu, bien sûr, mais beaucoup d'hommes savent pas vraiment. Ou alors, est-ce que je suis un dragueur ou est-ce que je suis un salaud? Et ça, c'est des questions qui me paraissent importantes à aborder personnellement, mais aussi collectivement.
Et en les abordant, comment faire aussi pour que ce que vous appelez la justice de genre ne se transforme pas en police de genre ? C'est-à-dire qu'on ne moralise pas tous les rapports aujourd'hui.
Vous avez raison, je déteste la police de genre et je ne fais pas partie de ces ligues de vertu ni de la terreur délatrice que certains voudraient associer à tort au mouvement MeToo. Je crois qu'une fois qu'on a évoqué quelques règles, il faut laisser les jeunes et les gens en général tranquilles. Alors quelles sont ces règles ? Enfin, c'est les règles qui me paraissent évidentes et qui ne le sont pas. Respecter absolument le désir de l'autre. Essayer de mettre au jour la manifestation du consentement et respecter celui-ci. Et on voit bien que ces quelques banalités que je suis en train de dire, en fait, permettent de sortir d'un certain nombre de dilemmes. La prétendue galanterie est-elle un rapport sexualisé qu'on impose à une jeune femme qu'on prétend aider ? Eh bien, il faut voir si, en effet, est-ce que c'est de la galanterie ou est-ce que c'est une politesse universelle qu'on pourrait témoigner à une femme comme à une personne âgée ou à un homme. Donc, vous voyez que poser la question du désir de l'autre, du plaisir de l'autre, du consentement, ça permet immédiatement de sortir de cette zone grise et ça permet de faire advenir cette masculinité de respect que j'évoque parmi d'autres masculinités nouvelles.
Alors vous avez évoqué les définitions flottantes comme celle de la galanterie aujourd'hui, autant de principes qui paraissaient établis et qui sont en train d'être redéfinis et dont les contours ne sont plus si clairs aujourd'hui. On peut en dire autant de la virilité. On va écouter à ce sujet les mots de l'historien Georges Vigarello.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le mode de question que se pose la virilité traditionnelle est radicalement nouveau, parce que la place de la femme n'est pas la même, parce que la femme peut revendiquer des qualités qui sont considérées comme traditionnellement les qualités viriles, la force par exemple. Mais il y a d'autres problèmes qui sont posés aujourd'hui et qui portent sur des accroissements de la délicatesse, de la subtilité, de la manière dont une personne s'interroge sur elle-même, se met en doute elle-même, toute la psychologisation des comportements, qui évidemment est en rupture absolue avec la virilité traditionnelle, qui ne pose pas vraiment de questions sur sa légitimité. Donc aujourd'hui, il y a des questions radicales posées sur la légitimité de la domination traditionnelle qu'était la vérité, à cause du statut de la femme, à cause de la transformation du statut du sujet lui-même, à cause de la démocratie et de l'égalité. Et on voit très bien, à travers ce dernier exemple, que ce qui se pose, c'est une analyse de la société.
Voilà, les hommes, vous racontez, vous dites, Yvan Jablanca, que la virilité se veut aussi une qualité, à la différence de la masculinité, qui est un ensemble de critères, de culture, hein, sur cette différence-là. Mais on voit que des termes, des notions même comme celle de la virilité, à entendre Georges Vigarello, sont quand même des notions mouvantes, un peu fuyantes, hein, qui nous échappent et qui évoluent avec le temps.
Oui, moi je salue les propos de Georges Vigarello. D'ailleurs, enfin, j'imagine qu'il les a prononcés à l'occasion de la sortie de ce grand collectif qui était l'Histoire de la virilité, à laquelle j'ai participé moi-même en tant qu'historien. Donc, je suis en quelque sorte partie prenante. Cependant, je pense que la masculinité, c'est beaucoup plus large que la virilité. La virilité, c'est en quelque sorte une culture. Et après tout, boire des bières entre copains, hurler devant un match de foot ou par les voitures. Bon, ça, ce sont les attributs classiques de la virilité, puis je vois pas le problème. Je veux dire, y a aucun problème avec tout ça. Ça fait partie d'une culture, de même que dans un dîner de copines, on va parler de ceci, cela. Ça fait partie d'une sociabilité qui ne pose pas problème. La masculinité et les abus de celle-ci, c'est tout autre chose. Et ça fait sortir de la définition de soi-même. Ça fait sortir de ce que j'évoquais sous l'espèce de du privé et du psychologique. Ça renvoie tout simplement à un projet de société. Et dans ce livre que je publie, j'essaye de définir une morale du masculin, mais j'essaye aussi de proposer un projet de société avec des nouvelles solidarités, avec l'idée de vivre en égaux. Et puis j'essaye aussi d'introduire cette notion de justice de genre qui donne tout son sens au titre, hein, des hommes justes, et non pas simplement des hommes doux, gentils, sympas, hein, c'est pas simplement ça le problème. Le problème, c'est bien la justice de genre. Donc ce que j'ai essayé de dessiner, c'est une utopie, Je crois que ça peut s'appeler comme ça, et peut-être on rira, mais enfin après tout, les utopies d'hier sont devenues les réalités d'aujourd'hui. Donc une utopie pour une nouvelle ambition politique, et je pense que certains partis de gauche, certaines associations, certains syndicats pourraient revendiquer, je crois, à bon escient, cette nouvelle utopie pour le 21e siècle. Ce serait une manière de réveiller la gauche qui en a bien besoin.
Voilà, donc vous êtes candidat à reformuler le programme de certains partis, notamment sur cette question-là. Et vous êtes peut-être le futur secrétaire d'État, voire ministre, à la condition de la femme et des hommes,
de l'homme. C'est gentil de me faire cette boutade. J'ai pas d'ambition politique. Et puis, je crois que chacun a sa place. Moi, mon rôle en tant qu'historien, intellectuel, entre guillemets, c'est de produire des idées, de lancer des débats, de gratter là où ça fait mal, de taper sur l'épaule d'un gars en lui disant « Mais mon vieux, qu'est-ce que tu mets dans ta masculinité ?» Voilà mon rôle. Et puis à d'autres de se saisir de quelques-unes de mes idées, si ils le souhaitent, et puis on en fera tous ensemble ce qu'on voudra bien en faire.
Taper sur l'épaule d'un gars, vous êtes encore sur des vieux réflexes virilistes quand même. Mais pour l'heure, vous êtes à votre place, Yvan Jablanka, vous êtes autour de cette grande table et notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de l'apparition des Hommes Justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, votre ouvrage qui paraît donc au Seuil.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et comment s'y prendre pour réinventer le masculin? Par où commencer? Dans son tube « Balance ton quoi », la chanteuse Angèle rappelle au mec qu'une fille qui l'ouvre en 2019, ça serait peut-être normal. Dans le clip, je ne sais pas si vous l'avez visionné, vous qui nous écoutez, vous Yvan Jablanka, elle met en scène et dirige une séance de groupe pour tenter de rééduquer les garçons dans le cadre d'une anti-sexisme académie. Extrait. Balance ton quoi.
Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui, mais c'est super.
Voilà, extrait du clip « Balance ton quoi » de la chanteuse Angèle. Alors là, typiquement, on a une jeune femme de 20 ans qui, en chantant, parle à toute la génération des jeunes filles aujourd'hui et peut-être aussi en partie des garçons. À qui revient-il de bousculer le système? Est-ce que là, c'est encore à des voix féminines de tenter d'éduquer en miroir les garçons d'aujourd'hui?
Ça me fait plaisir que vous ayez fait passer cet extrait parce que j'adore Angèle, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, je trouve qu'elle a beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence. Et puis ce clip, on l'a regardé plusieurs fois en famille avec nos filles, c'est un clip qui est génial. D'ailleurs la voix de l'homme, enfin celui qui fait un des garçons qui a rien compris, je crois que c'est Pierre Ninet qui après tout participe amicalement à ce clip.
Ouais.
Ça veut dire sans doute que lui aussi il a commencé à réfléchir sur toutes ces questions. Bien entendu, ce sont les femmes qui, historiquement, se sont saisies de toutes ces questions. Elles ont dû, bien souvent, lutter seules, dans l'indifférence générale, dans l'hostilité masculine, pour réclamer égalité, respect et cette justice de genre que j'évoquais. Donc, si je parle des féministes, c'est pas pour usurper leur rôle, c'est pour leur rendre hommage et pour souligner tout ce que ma réflexion doit à la leur. Maintenant, on peut quand même dire que les hommes ont un rôle à jouer. Je pense que les succès du féminisme s'entendent aussi à mesure que les rôles masculins sont réinventés, à mesure que les modèles masculins sont réinventés. Alors que les hommes eux-mêmes entrent en scène pour dénoncer les structures patriarcales dont ils sont par ailleurs les bénéficiaires, bon, je crois que c'est quelque chose de plutôt positif. Maintenant, vous voyez bien que cette situation peut être ambiguë, peut être glissante, d'où cette nécessité d'avoir une réflexion sur soi-même et de mettre en place ce que j'appelle une contre-masculinité.
Voilà, et vous parlez dans cet essai, Yvan Jablanka, des hommes de bonne volonté en proie au doute. Je vous propose un dernier extrait, celui d'un documentaire « Vers la tendresse » de Alice Diop, où la réalisatrice parlait d'amour et de tendresse avec des garçons.
Moi, je veux dire... Ça va peut-être être cru ce que je veux dire, mais je suis attiré par les putes et les meufs à problème, t'as vu. Donc t'as vu, voilà, quoi, tu peux pas construire des choses. Et peut-être la meuf qui a pas de problème, qui est bien et tout, eh ben elle, non, je veux pas voir que je veux attirer ça, en fait. C'est des putes, c'est tout. C'est comme ça qu'on appelle, des salauds. Je suis un salaud aussi. Je les traite de salopes, mais je fais partie de ce monde-là, tu vois. Je vais pas faire l'égoïste... Je suis un salaud aussi, tu vois. Tu peux pas. C'est pas seulement la meuf qui est pute et toi t'es propre, c'est pas possible. C'est les deux, faut un crasseux, une crasseuse. Pour l'instant, je me contente de ça, tu vois.
Quand tu grandis dans une cité, t'as une certaine. Les filles, c'est d'un côté, on va dire. Tu vois, pour les mecs, c'est d'un côté, donc on se mélangeait pas par rapport à la génération de maintenant. On sortait pas, nous, avec des filles et tout. Et à force de rester entre mecs et tout, entre potes. Après, quand t'arrives dans des situations où il y a des nanas et tout, tu vois, je réagis mal peut-être, tu vois. Tu sais, mais j'ai pas de sœur, j'ai pas, tu sais, je peux pas, je sais pas c'est quoi une femme en vérité. C'est ça. Je sais pas ce que c'est, tu sais pas. Tendresse et tout, et comme tu parlais de tendresse tout à l'heure, la seule tendresse que j'ai eue, c'est ma mère, tu vois.
Alors le premier témoignage est un peu trash, Yvan Jablanka, mais il stipule quand même un principe d'égalité. Il définit sa masculinité par rapport à cette féminité telle que lui l'aperçoit, l'idéalise, l'affectionne. Le second, il confesse son ignorance et donc son impuissance pour changer l'ordre des choses. Encore faut-il avoir les codes d'entrée dans cette situation pour ces jeunes garçons.
Oui, enfin, moi, je m'exclus pas de la réflexion. Hein. Beaucoup d'hommes se cherchent, beaucoup d'hommes apprennent, beaucoup d'hommes réfléchissent sur les modèles qu'on leur a imposés dès l'enfance. Beaucoup d'hommes se demandent précisément ce que c'est que le masculin. Donc, que ces jeunes se cherchent, que moi, en tant que conjoint, père, je me cherche. Bon, j'ai pas trop envie de parler de moi, mais après tout, c'est des réflexions qui nous traversent. C'est bien normal. Précisément. Parce que il s'agit bien de genre et pas de sexe, et que le genre se construit, le genre s'enseigne, le genre parfois aussi s'impose, et on pourrait dire aussi la même chose de la masculinité des jeunes gays. Hein. Il y a aussi une souffrance quand on se découvre à l'âge de 15 ou 18 ans jeune gay, parce que toute la société en quelque sorte conspire contre vous, et ça fait qu'il y a une très grande surmortalité par suicide de jeunes gays qui sont dans cette souffrance. Voilà, tout ça, c'est des réflexions plus ou moins tristes, plus ou moins tragiques, plus ou moins heureuses aussi, que beaucoup d'hommes tentent d'avoir.
Juste des hommes, mais des hommes justes. Finalement, vous les définissez comment, vos hommes justes, Yvan Jablanka ?
Je pense qu'un homme juste, c'est d'abord quelqu'un qui se pose la question. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le masculin ? Et je crois qu'il y a une espèce de prise de conscience à avoir, suivie d'un examen de conscience, voilà, nos privilèges, nos erreurs peut-être. Et puis, l'homme juste, je crois, essaye de vivre l'égalité au lieu de simplement la louer, la promouvoir. Et puis enfin, je crois qu'il est important de prendre position en faveur des droits des femmes et au sein de ces guerres du masculin que j'évoquais.
Merci beaucoup à vous, Yvan Jablanka, d'avoir été avec nous. Des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités. Votre ouvrage vient de paraître au Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Pierrick Monsigny, et à la vidéo, Swad Boukorsa. Très bel après-midi sur France Culture.